Vous sentez de taille pour le troisième passage de notre brave âgé? Alors on va continuer, le chapitre 2, les versets 10 jusqu'à 19. Le 24e jour du 9e mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent « Non ». Et Agé dit « Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées ?» Et les sacrificateurs répondirent « Elles seront souillées ». Alors Agé, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'il m'offre là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Passage étonnant, hein? Passage étonnant, c'est le troisième mois depuis sa première prédication, depuis qu'il a remis le peuple en état. Il est allé, il les a secoués de la part de Dieu, ils ont compris le message, ils travaillent, ils ont reçu un message d'encouragement, et les choses se mettent en route. Et on commence à voir la construction du temple. On va maintenant arriver à cette intervention de Agé. Pourquoi? Parce que on pouvait s'attendre quand même, après que le peuple se soit mis au travail, que les récoltes reviennent facilement. On aurait voulu qu'il y ait des récoltes. Le peuple a été puni, Dieu l'a dit, vous ne récoltez pas, vous semez, vous travaillez, vous n'avez rien, parce que vous désobéissez. Maintenant que le peuple est dans l'obéissance, on devrait s'attendre à ce que, ça repousse. Et on voit que le résultat, c'est pas brillant. Et quand Agé intervient, c'est la période où on va ressemer, où on va travailler dans les champs. C'est le moment crucial pour dire, on va travailler, mais est-ce que ça vaut encore la peine qu'on travaille finalement? On a fait ce que Dieu a demandé, on travaille, et le résultat n'est pas probant. Ça nous pose un problème. Est-ce que Dieu manquerait à sa parole? Est-ce que Dieu n'est pas en train de tromper les gens, de tromper son peuple? Agé intervient et il dit, je veux poser des questions. Je veux poser des questions aux sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? Parce que ce sont les experts au point de vue de la religion. Ce sont les experts au point de vue de la loi. La Bible, d'ailleurs, rappelle Malachie 2, par exemple, ou Deutéronome 33, que dans les questions à poser, c'était au sacrificateur qu'il fallait s'adresser. Donc, Agé va vers ses sacrificateurs et va leur poser une première question. Nous l'avons vu au verset 12. quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, c'est une question qui est en rapport avec la sainteté. Puis il va poser une deuxième question. Et cette deuxième question, elle est en rapport, non pas avec la sainteté, mais avec l'impureté. Vous voyez un petit peu, il va mettre deux questions, une qui concerne la sainteté, une qui concerne l'impureté. Question simple, la viande consacrée, c'est-à-dire réservée pour un sacrifice, est-ce que cette viande qui est consacrée, réservée pour un sacrifice, qui est donc sainte, est-ce qu'elle peut communiquer sa sainteté à ce qu'elle touche? La réponse est non. Les sacrificateurs ont bien répondu. Mais la deuxième question, si quelqu'un touche un cadavre, est-ce qu'il va être souillé? Et là, la réponse est oui. Les sacrificateurs ont bien répondu aux deux questions qui étaient posées. Est-ce que je peux vous poser une question bizarre? Ce n'est pas une question anodine. Je vais vous poser la question qui a été posée et qui a été débattue lors d'un concile par l'Église catholique il y a environ 400 ans. Une mouche tombe dans de l'eau bénite. Est-ce que c'est la mouche qui est sanctifiée ou est-ce que c'est l'eau qui est impure? Je vous laisse le soin de répondre, hein. Question bizarre, hein? Mais en réalité, ça a fait l'objet d'une discussion dans l'Église catholique lors d'un concile. Ici, on laisse tomber la mouche, on va pas la chercher, hein? Il y a déjà l'araignée qui se promène. Alors, on va regarder simplement ces deux questions et on va se dire, mais pourquoi est-ce que le prophète intervient avec ces questions? Tout simplement parce qu'il va montrer que la sainteté, elle ne se communique pas, tandis que le péché se communique, l'impureté se communique. On peut avoir un rhume, et je peux vous communiquer mon rhume, mais vous ne pouvez pas me transmettre votre bonne santé. C'est moche, mais c'est comme ça. Prenez l'exemple d'un papa qui a un fils malade. Le fils peut communiquer la maladie à son papa, le papa ne peut pas communiquer sa bonne santé à l'enfant. Le péché d'Adam a été communiqué à toute la race humaine. Mais les enfants, les parents chrétiens, est-ce qu'ils peuvent donner des enfants chrétiens? C'est Billy Graham qui a dit, ce n'est pas parce que vous êtes né dans un garage que vous êtes une voiture. Même si vous êtes né dans un foyer chrétien, ça ne fait pas de vous un chrétien. Nous le savons. Il y a un principe qui est un principe que nous devons peut-être nous rappeler, c'est que le péché, le mal se communique. La sainteté, la sanctification, elle ne peut pas se communiquer comme ça. On peut contribuer à aider, mais je ne peux pas communiquer ma sanctification. C'est toujours l'histoire de la pomme. Vous mettez 9 bonnes pommes et une pomme pourrie, la pomme pourrie ne va pas devenir bonne. Elle risque de contaminer les autres. C'est étonnant. Et vous faites le contraire, mettez 9 pommes pourries et une bonne. C'est évident que le résultat ne va pas se faire attendre. Les pommes pourries ne vont jamais devenir meilleures, c'est tout. C'est un principe. Et ce principe maintenant que le prophète a montré, c'est uniquement pour dire, voilà l'état spirituel du peuple aujourd'hui. Tel est ce peuple devant moi. Telles sont toutes ses œuvres. Dans le fond, qu'a fait le peuple ? Il a obéi en reconstruisant le temple. Il est reparti. Il est rentré dans l'obéissance. Mais le fond du cœur n'a pas changé. C'est quelque chose d'extérieur. Et Dieu veut aller plus loin. Il y a les bons fruits et il y a les mauvais fruits. nous connaissons cela. On pouvait s'attendre à ce que, ah, maintenant que le peuple commence à travailler, il y aura un retour vers Dieu. Il y aura quelque chose de profond. Mais en réalité, c'est quelque chose de tout à fait extérieur. On continue à offrir le sacrifice, on continue les fêtes, mais la réforme intérieure dans le cœur n'y est pas. Et c'est là où le prophète met le doigt. Dieu ne se contente pas du formalisme extérieur. Il ne se contente pas simplement des activités extérieures. Il regarde le cœur. Il regarde notre obéissance. Il regarde notre sanctification. Beaucoup de gens, quand ils se convertissent, marquent des changements radicaux dans leur vie. Nous connaissons des cas où une personne qui était alcoolique arrête l'alcool. C'est pas toujours le cas, mais là, on voit des péchés qui sont radiés, nettoyés. Mais il y a tout un travail qui doit encore se faire, et qui va prendre toute la vie. Nous connaissons notre expérience de chrétien. Et en tant que chrétien, quand nous nous sommes convertis, le Seigneur a purifié, il nous a lavé. Il y a des péchés, oh, là, on a obtenu des victoires fantastiques. Mais au fur et à mesure que nous avançons, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas encore fini. Et c'est un travail de tous les jours, ce travail de la sanctification. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, leur dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Parce que le mal est contagieux. Parce que le mal, on le communique. Mais parce que le mal, tant qu'il reste en nous, il va rendre impur ce que nous faisons. Le peuple est encore marqué par ses péchés. Il offre un sacrifice, mais le sacrifice est marqué par le péché. Vous voyez, il faut qu'ils considèrent qu'ils sont en route vers la sanctification pour que le sacrifice devienne davantage dans cette sanctification, qu'il marque la sanctification. Et c'est là où, comme chrétiens, nous voulons comprendre que nous ne sommes pas encore arrivés. Dieu nous dit, considérez attentivement vos voies. Et considérez-les parce que il n'est plus seulement question de sa maison, mais les questions de son temple. Pour la première fois, et à deux reprises, il revient avec la notion du temple, sa maison spirituelle, là où sa gloire se manifeste, là où l'œuvre de Dieu éclate. C'est le lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu. Il faut qu'il y ait des progrès. Nous ne sommes pas encore au bout de la course. C'est tous les jours, c'est un travail de tous les jours, de tous les jours. Les plus anciens ont probablement fait leur service militaire. J'ai eu cette chance. L'inconvénient d'être un ancien. Vous savez comment ça se passe ou comment ça se passait? À un certain moment, vous recevez chez vous un petit papier qui signale que vous pouvez être appelé sous les drapeaux à partir de maintenant, que vous êtes donc appelé à servir dans l'armée. Vous êtes chez vous, vous continuez vos activités, mais pour l'État, vous êtes déjà un militaire. On peut vous appeler à tout moment. Mais vous n'êtes pas dans la réalité. Continuez vos activités jusqu'au jour où peut-être quelques semaines ou quelques mois, vous recevez un papier en disant « Présentez-vous à telle caserne, tel jour, telle heure, clac. » Bon, c'était à Namur. Je me suis présenté à Namur. L'heure, le jour, pas le moment d'arriver en retard. Je suis militaire, en civil. Le lendemain, on nous a donné un uniforme. Ah, je commence à ressembler à un militaire. Puis après, on nous a donné une arme. Je suis un peu plus militaire. Évidemment, je ne sais pas tirer, je ne sais pas me servir de l'arme, mais je suis militaire. Et puis, on va nous apprendre à tirer, à manier une arme, à marcher au pas. Chaque jour qui passe, on devient un peu plus militaire. Il y a un progrès. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à être saints. Nous acceptons le Seigneur Jésus, cette sainteté, elle devient effective. Mais dans la réalité, il y a tout un travail qui doit se faire. Tout un travail de sanctification. Et Dieu, dans sa sagesse, n'a pas tout de suite donné tous les résultats, toutes les productions. Le peuple aurait dit, ça y est, on est arrivé. Dieu ne va pas leur donner. Il va leur montrer que le travail doit se faire en profondeur. Vous n'avez pas reçu tout ce que vous vouliez. Les récoltes que vous avez, il y a eu le vent, il y a eu la rouille, il y a eu toute la nielle. Ce sont des vents différents qui détruisent. Vous pensiez avoir 100%, ben vous n'avez que 20% ou 30%. Vous espériez avoir 50% là, ben même pas, 10%. Vous n'avez pas. Et pourquoi? Parce que finalement, vous n'êtes pas revenu. C'est ce que Dieu reproche. Dieu attend que son peuple revienne. Il attend que son peuple se mette en route vers lui. Finalement, ce n'est pas a priori le temple, mais c'est l'état d'esprit. C'est l'état du cœur qui va déterminer le travail. Et nous savons tous qu'on peut très bien travailler pour Dieu par habitude. On peut travailler pour Dieu sans amour. On peut faire des choses dans l'Église. Mais quel est l'état de notre cœur? Quelle est notre situation spirituelle? Vous voyez un petit peu, Dieu va gratter un petit peu au-delà de la surface. Il va nous amener à réfléchir à quelles sont nos motivations, quelle est notre relation avec lui. Dieu dit, vous n'êtes pas revenu malgré tout cela. Et je crois que c'est aussi quelque chose que Dieu peut nous dire. Est-ce que nous sommes revenus vers Dieu? Quelle est notre relation personnelle? Quelle est la relation de l'Église, du peuple devant Dieu? On peut beaucoup travailler pour Dieu sans amour. On peut beaucoup travailler pour Dieu sans qu'il y ait des réformes dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, c'est un danger. Vous voyez, c'est cela. Agé va aller très loin de la part de son Dieu pour creuser un petit peu dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs motivations. Et ceci ne concerne pas seulement l'avenir. Il le dit, considérez ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Et à deux reprises, il le dit, jusqu'à ce jour. Donc, c'est pas seulement la perspective du futur, mais malgré que vous avez travaillé, malgré que vous avez fait les choses, ça ne marche pas parce que je veux plus. Dieu veut plus. Il veut notre obéissance. Il veut notre soumission. Il veut que nous travaillions avec nos tripes, avec notre cœur. Quand nous faisons quelque chose, les gens voient l'extérieur. Oh, il a bien travaillé, n'est-ce pas? Et Dieu regarde le cœur. Et dit, mais tu n'es pas revenu. Et c'est ce qui m'intéresse, moi. C'est que tu reviennes, que tu sois proche. Alors, en d'autres mots, il dit au peuple, allez revoir dans vos caves, qu'est-ce que vous avez? Ben, vos caves sont pratiquement vides. Vous n'avez plus rien. Mais regardez si vous revenez. Regardez, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Et là, il y a une promesse. C'est que, en étant conséquent devant Dieu, dans notre obéissance, dans notre recherche de la sanctification, dans nos progrès spirituels, le Seigneur dit, mais moi, dès maintenant, je peux répandre ma bénédiction. On veut aller plus loin. Et peut-être que, avec le premier message, vous vous êtes dit, il faut que je reconsidère mes priorités. Allez, je veux rectifier certaines choses, avec le temps, avec l'argent, avec d'autres choses. Et vous vous dites, oui, je veux travailler. Et peut-être que vous êtes de ceux et de celles qui travaillaient déjà. Formidable. Et si on faisait un petit pas en plus maintenant pour revenir vers Dieu? Que ça vienne du cœur. Que ça vienne de chez nous, de nous-mêmes. Il y a longtemps, vous avez dit au Seigneur que vous l'aimiez? Vous l'aimez? Ben dites-lui. Il y a longtemps, vous avez dit au Seigneur que vous êtes heureux avec lui? dites-lui. Faites non seulement de votre vie chrétienne une vie de service, mais une vie de relation et d'amour. Je sers le Seigneur parce que je l'aime. Je sers le Seigneur parce que je suis heureux avec lui. Vous comprenez? On fait un pas en plus et ce pas va nous amener à toujours nous rapprocher de Dieu et nous détacher du péché pour lui faire plaisir. Je pense que dans les couples, il y a des choses que votre conjoint n'aime pas. Ben, vous ne le faites pas. Enfin, quand il est là. Hein? Mais avec le Seigneur, il est toujours là. Et il y a des choses que nous pouvons faire pour lui faire plaisir. Vous voyez l'idée? Et ça, Seigneur, je ne veux plus le faire parce que je t'aime. Ça, je ne veux plus le faire. Ça va nous coûter quelque part. Mais c'est cette sanctification qui va nous amener dans l'obéissance, mais dans une relation où Dieu dit, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Est-ce que c'est pas ce dont nous souhaitons? Alors je vais vous proposer ceci. Pendant une minute ou deux, dans le silence de nos cœurs, hein, vraiment, c'est personnel. Dites au Seigneur que vous l'aimez. Si vous l'aimez. Dites au Seigneur que vous lui faites confiance. Demandez au Seigneur de vous aider à vous débarrasser de quelque chose qui lui déplaît, que vous savez, hein, et qui lui déplaît. Seigneur, là, aide-moi dans ma sanctification. On prend juste une petite minute pour cela, puis je prie. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons vers toi, comme des enfants devant leur père. Nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous sommes heureux d'être ouvriers avec toi, heureux pour ton pardon. Ce soir encore, nous te demandons de nous pardonner nos légèretés, notre laisser-aller, de nous pardonner parce que nous confessons que tu n'as pas toujours la première place dans nos vies. Nous ne te donnons pas la priorité qui devrait te revenir. Seigneur, pardonne. Aide-nous à te faire plaisir. Aide-nous à te donner de la joie. Dispose nos cœurs pour que nous puissions t'aimer, te servir. Et que notre cœur soit dans cette relation, cette communion avec toi. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu pardonnes. Et nous plaidons ce que Jésus a accompli pour nous. Nous plaidons son sacrifice à la croix. Nous plaidons le sang qui a coulé pour nous. Mais en même temps, nous voulons te dire merci parce que tu es prêt à répandre ta bénédiction. Toi qui connais nos cœurs, tu sais quel aspect la bénédiction peut prendre, d'une manière pour l'un, d'une autre manière pour l'autre. Le Seigneur intervient dans nos vies pour que nous puissions vraiment être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, Amen.